on a du mal à avaler ça. Mais parce que justement, on n'arrive pas à comprendre que la Bible est essentiellement une pédagogie divine. Je répète ça, parce que ou bien vous avez compris ça et la révélation biblique vous est ouverte, ou bien vous n'avez pas compris ça et la révélation biblique vous sera fermée. Et vous savez, il y a des gens très intelligents qui n'ont jamais compris ça. Je pense à Simone Veil, non pas à la ministre actuelle, mais celle qui, pendant la guerre, est morte héroïquement et puis a été jusqu'au seuil du christianisme. Là, vous avez certainement entendu parler d'elle. Et elle était professeure de philosophie et elle trouvait que Platon, c'était beaucoup plus sublime. Et d'une certaine manière, c'est vrai, hein? C'est vrai, il y a des livres de spiritualité où vous, tout de suite, vous trouverez à faire votre lecture spirituelle, peut-être. Mais alors, est-ce que ça sera aussi solide que cette pédagogie divine qui construit l'homme en le prenant tel qu'il est, là où il en est, pour petit à petit l'acheminer et construire sa personnalité, lui donner de la consistance dans l'être? C'est important, ça. Encore une fois, le perfectionnisme est une des pires maladies dont on est victime. Bon, on manie un beau langage, on croit qu'on est arrivé parce qu'on manie un beau langage, et arrive... Des circonstances exceptionnelles et tout s'écroule. Ou bien alors, on se reproche de ne pas être ce qu'on devrait être, et au lieu de mettre un pas devant l'autre en progressant, en utilisant nos énergies à progresser, on se reproche de ne pas être ce qu'on devrait être, et puis on se bat le mea culpa, et les énergies qu'on devrait employer pour progresser, on les emploie à se combattre contre soi-même, à se stériliser au fond. Et comme on ne s'aime pas soi-même, on n'aime pas non plus les autres, et ça empoisonne tout. C'est une maladie terrible. Tenez, je pense ici à un livre là d'un écrivain qui en France, je crois, écrit encore maintenant, un certain Petru Demetriou. Il a écrit un livre qui s'appelle Incognito, qui était un best-seller il y a une bonne vingtaine d'années. Bon, c'était un Roumain, et alors dans sa jeunesse, il a d'abord été dans les armées allemandes, et alors il partage un peu l'idéal des SS, voir le soleil et la mort en face. Et bien ensuite, alors il est fait prisonnier par les Russes, et quand les Russes voyaient un type qui avait de l'étoffe, ils le rééduquaient à leur manière. Alors il gravit comme ça les échelons de la hiérarchie soviétique. Et puis, comme il n'est pas dans la ligne du parti, il est mis en camp de concentration. On sait que les Allemands n'ont pas eu le monopole des camps de concentration, on le voit de plus en plus. Et alors là, il fait des expériences épouvantables. Et il part de zéro. Son catéchisme a été tout à fait élémentaire, il est peut-être tout à fait inexistant. Et là, au fond de la vie impossible, de l'enfer où il se trouve, il découvre qu'il faut aimer. La vie humaine est réussie ou ratée selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il dit, il faut aimer même son ennemi. Et son ennemi lui fait manger ses excréments. Mais alors il dit, pas trop vite. Parce que ça pourrait être du masochisme, ça pourrait être une espèce de démission. Tous les psychologues actuellement s'amusent à nous montrer les motifs intéressés de nos apparences, de nos gestes en apparence les plus nobles. Et alors c'est progressivement qu'on arrive à ça. Un gosse, il est d'abord égocentrique, il paraît que si on demande à un gosse de 3-4 ans, là, t'as un petit frère ou une petite sœur, il dit oui, comment il s'appelle, il dit son nom. Et lui, là, André, celui dont il vient de dire, est-ce qu'il a un frère, il sait plus. Et la relation ne joue que dans un sens. Et alors il a besoin, pour croître, d'un égocentrisme nécessaire. Et s'il n'a pas réussi à s'aimer lui-même, pour certaines circonstances, là, parce que sa famille n'était pas normale, parce que ceci, parce que cela, il ne pourra jamais ensuite aimer les autres. Alors au fur et à mesure qu'il grandit, sa personnalité prend de la consistance, il devient accueillant, capable d'intégration, et puis l'état adulte, d'après ce que disent les psychologues, là, se caractérise par l'oblativité et la relation. Voyez, et bien, dans le peuple de Dieu, vous avez une croissance analogue. Un peuple d'abord qui, pour garder son identité, peut-être qu'il a trouvé dans le désert, trouve pas d'autre moyen que de pratiquer le harem, l'anathème vis-à-vis des populations du pays dont il prend possession, les Cananiens qui avaient des mœurs épouvantables. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il devient capable d'intégration, d'accueil, et la plénitude des temps, Saint Paul part répondre à l'attente des îles lointaines. Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Une puissance d'intégration qui est capable d'intégrer, de récapitulation dans l'unité posée au centre. Alors nous sommes à des étapes, et actuellement une personnalité se construit aussi en suivant ces étapes. C'est important de bien voir ça. Et ce qui fait, au fond, la perfection de l'Ancien Testament, c'est précisément son imperfection. Parce que si Dieu avait donné d'un seul coup à ce ramassis d'esclaves qui sortait d'Égypte la loi parfaite, ça aurait glissé comme de l'eau sur des plumes de canard. Et c'est justement parce qu'il l'a pris tel qu'il était, là où il en était, qu'il a éduqué progressivement par cette pédagogie dont nous apprenons les lois. Et dans l'Ancien Testament, c'est encore plus merveilleux. Le Christ donne au fur et à mesure qu'on est capable de porter. Il dit, avant de quitter ses apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter. L'Esprit vous mènera vers la vérité tout entière. Attendez, si vous avez compris que la Bible est une pédagogie irremplaçable, alors à ce moment-là, à l'école de l'Église qui vous en fait suivre les progressions de cette pédagogie, alors vous avez quelque chose d'irremplaçable. Si vous n'avez pas compris ça, vous serez tout le temps inhibé, alors que les récits sauvages que l'Église nous fait lire sont précisément une étape nécessaire qu'on ne peut pas télescoper de la pédagogie divine. Je me suis attardé un peu là-dessus, mais ça me paraît très important. C'est une clé de lecture de la Bible. Et encore une fois, moi j'aime bien ceux qui suivent la liturgie des heures. Alors on a un peu abrégé maintenant, il n'y a plus d'octave à la Pentecôte, il n'y a plus d'octave à l'Épiphanie, puis pof, on tombe dans le temps ordinaire. Alors c'est comme une espèce de chute, mais qui, comme un électrochoc, nous force, une fois qu'on est arrivé au sommet de la révélation, à ne jamais renoncer à entretenir la route par laquelle nous-mêmes, bon, on parle des autres, mais examinons un petit peu nous-mêmes, quand on s'examine avec les méthodes impitoyables de la psychologie actuelle, la psychologie des profondeurs ou de la psychanalyse, on découvre en nous, sommeillant, des animaux prêts à se réveiller. Et alors n'allons pas nous faire illusion. Et puis quand on tourne le bouton de la télé le soir ou qu'on ouvre les journaux, on voit une humanité beaucoup plus contemporaine de Josué et des juges que de l'Évangile. Et alors Dieu, encore une fois, continue maintenant à faire ce qu'il a fait tout au long de l'histoire, à nous prendre tels que nous sommes. Et si la question de la violence là, nous épate, nous choque particulièrement, prenons le point de vue de la sexualité, c'est la même chose. Alors, tout le monde se dépatouille avec de l'inavouable. Eh bien là encore, on a affaire à un Dieu qui nous fait cheminer jusqu'à ce qu'on devienne capable de jouer cette partition musicale qui nous invite à jouer pour le plein épanouissement de ce qu'il a lui-même créé. Et on interroge les sexologues, mais interrogeons Dieu, c'est lui qui sait ce que c'est que l'amour. Et alors regardons comment petit à petit il éduque l'humanité pour jouer cette partition merveilleuse qui reflète l'histoire sainte, l'alliance, le cantique des cantiques, ce dont nous parlerons à Cana, tenez, quand on parlera des noces de Cana et puis de l'esprit qui est dans nos cœurs, nous invitant à jouer la partition proposée aux spontanéités de la liberté pour l'épanouissement de ce que Dieu a mis en nous quand il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Bon, et bien alors maintenant, on a passé le Jourdain, et puis nous allons faire, on enchaîne avec hier à Bethsaïde, il les emmena, et on va aller jusqu'à l'endroit où Jésus a fondé l'église. Ordinairement, les pèlerinages n'y vont pas, peut-être est-ce parce que là où Jésus a fondé l'église, il n'y a pas de sanctuaire. C'est curieux. Enfin, vous voyez quand même.